des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale puisque nous sommes en compagnie de l'un des plus grands écrivains italiens contemporains, peut-être le plus grand, Eri De Luca, qui publie aujourd'hui un petit livre extrêmement court mais extrêmement dense et extrêmement beau et qui ressemble à une autobiographie bien qu'il se présente comme un dialogue entre un écrivain et le fils qu'il n'a jamais eu. Bonjour Eri De Luca.
Bonjour.
Vous êtes né en 1950 à Naples, Naples très présente dans votre œuvre. D'ailleurs, je voulais commencer par vous citer puisque le volcan est là, il frémit dans ce petit livre Le Tour de l'Oie qui est publié chez Gallimard. J'ai grandi dans une ville volcanique, je vis loin d'elle dans une maison en pierre de lave, je continue à habiter des feux éteints. Alors vous êtes écrivain, traducteur, poète, vous êtes l'auteur de nombreux romans dont Monte Didio qui a obtenu en 2002 le prix Femina étranger, le prix européen de littérature en 2013, ainsi que le prix Ulysse, d'ailleurs je le dis toujours, décerné par des lecteurs corses pour l'ensemble de votre œuvre. Vous êtes très apprécié des lecteurs français qui aiment vos livres aux phrases sèches et pourtant gorgées de poésie, de sensualité, de réflexion aussi, de paroles aussi extrêmement engagées, je pense à Le Plus et le Moins ou à Trois Chevaux. Et puis il y a à côté de ces textes-là d'autres qui sont plutôt des contes, qui sont plutôt des paraboles, où la mythologie en fait est très très présente, des livres comme Le Poids du Papillon ou Histoire d'Irène. Vous êtes un alpiniste émérite aussi, vous avez même été membre du jury des Piolets d'Or qui récompense chaque année les meilleurs grimpeurs au monde. Et je crois que vous revenez des Andes, vous revenez d'un voyage d'alpinisme.
D'alpinisme volcanique.
Ah, d'alpinisme, ah oui.
On a escaladé 6 volcans de l'Équateur, de 4000 jusqu'à 6000.
D'accord, 6 volcans, donc un par un, comme une sorte de défi.
Dans 16 jours, donc, ouais. Très intense.
D'accord, donc là, vous avez finalement renoué avec votre enfance. Le Vésuve était un petit peu présent.
J'avais l'idée de trouver des volcans à escalader. Très bien. Marcher sur les volcans, active.
Quand vous dites la phrase que je citais, qui est très belle, avec cette proximité toujours des feux éteints, « Je continue à habiter des feux éteints », qu'est-ce que ça change chez un homme, le fait d'avoir habité près d'un feu éteint, mais qui peut parfois se réveiller d'ailleurs?
Et d'abord, la ville de Naples était bâtie avec cette pierre volcanique, le tuf, qui est le résultat de l'éruption. Et a été creusé, le sous-sol de Naples, pour extraire le tuf, pour bâtir un eau. Ça veut dire aussi que Naples est vide en bas, est pleine en haut et complètement vide en bas. Comme Venise est plantée sur l'eau, Naples est plantée sur le vide. Et même les tremblements de terre arrivent, s'épuisent dans ce vide, arrivent plus doucement sur la surface. Donc d'abord j'habitais dans ce tuf, que c'est un matériel cordial. Ça veut dire qu'il produit des murs qui ne séparent pas. De l'autre côté du mur, qui ne sépare pas
les lieux, paroles, les
chambres.
Gens,
les chambres. Oui.
Donc on entend tout.
On entend tout. C'est une immense casse acoustique, le tuf. Donc nous, à Naples, savons tout ce qui se passe autour, mais pas parce que nous écoutons, mais parce que le tuf nous transmet toute l'information.
Ça, c'est bien un argument de Napolitain. Hein, c'est pas notre faute, c'est à cause du tuf.
C'est à cause du tuf. Qui nous rend cordial, donc voilà. Il n'y a pas de secret parmi nous.
D'accord.
Et maintenant, j'habite devant une maison faite en pierre volcanique. Donc, ça veut dire que les murs sont 70 cm de pierre.
Que vous avez construite vous-même, hein. D'ailleurs, vous en parlez dans le tour de moi. Le narrateur en parle.
Avec des autres ouvriers. Oui. Nous étions trois.
Ouais. C'est important pour un écrivain de construire sa maison, la maison dans laquelle il écrit. C'est assez rare.
Je ne crois pas.
Non ?
Je ne crois pas que c'est important. Pour quelqu'un qui écrit, je crois que le lieu, l'endroit, les conditions, c'est insignifiant.
Pourtant, dans le Tour de l'Oie, le narrateur insiste beaucoup sur cette dimension de travail manuel, quand il parle à ce fils qui est devant lui, parle du bois, parle de la pierre, parle des éléments qui l'entourent, qu'il a disposés lui-même.
Oui, je parle d'une vie concrète et d'une expérience concrète parce que tout ce que j'apprends, je l'apprends à travers le corps, à travers les données physiques. La tête, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à avoir des abstractions mentales. La tête est le contraire, c'est le terminale d'une expérience physique. Arrive dans la tête, et là, la tête commence à employer l'utile de la parole pour une systémation de cette expérience physique. Mais d'abord, il y a cette expérience physique.
Oui, le corps d'un écrivain, c'est absolument fondamental. C'est aussi pour ça que vous conjuguez l'alpinisme, l'écriture, et que vous avez exercé tant de métiers physiques.
J'ai exercé des métiers physiques, papy. J'ai fait pendant une vingtaine d'années ce métier d'ouvrier. Et c'était pas un choix, c'était ce qu'il fallait faire pour vivre. L'alpinisme est le contraire, est la libération physique de l'énergie physique gratuite et heureuse dans des espaces où on va pour leur beauté. Aussi, ce sont des espaces pas faits pour nous, ce sont des espaces qui contiennent des dangers, inévitablement. Mais ce sont des dangers que je prends avec pleine conscience et heureusement. Par contre, quand je faisais le métier d'ouvrier, j'étais forcé à prendre des risques quotidiens qui n'étaient pas volontaires. C'était le métier. Et c'est pour ça qu'il y a régulièrement, chaque année, des dizaines de milliers de blessés, plus qu'un 1000 morts sur le lieu de travail. Le travail physique est dangereux. Et le courage n'est pas celui de grimper les montagnes, mais celui d'affronter ce travail jour par jour.
Vous disiez d'ailleurs, vous l'aviez raconté quand vous rentriez chez vous le soir après une journée de marteau-piqueur, puisque vous avez fait ça aussi avec les paupières qui tremblent encore des heures après avoir cessé le travail.
Mais j'ai eu la possibilité de faire ce travail avec une tête qui se détachait complètement du lieu et de l'endroit. J'avais une tête libre quand je faisais ce métier.
Le corps dans le sol et la tête dans les montagnes peut-être déjà.
Dans les montagnes, dans la page que j'avais lue le matin ou dans la page que je voulais continuer à écrire le soir.
On va parler de ça aussi, de cette pratique presque ascétique, presque de samouraï, de lire une page, notamment des saintes écritures, pour quelqu'un qui est agnostique, pas athée. Je crois que vous
fais une différence entre athée et non-croyant.
Voilà, voilà. Quelle différence d'ailleurs vous faites, vous, entre athée et non-croyant ou agnostique, si on parle un peu grec?
Non-croyant, ça veut dire que quelqu'un qui exclut la divinité de sa vie. Athée est quelqu'un qui exclut la divinité aussi de la vie des autres. Et donc, je ne peux pas exclure la divinité de la vie des autres, parce que j'ai vu des autres qui croyaient et qui avaient une énergie, une force, une relation, une intimité que je n'ai pas.
Un lien peut-être, comme religion. Religion, c'est le lien.
Ouais, un lien, un contact, un échange que je n'ai pas.
Si on revient à ce volcan dont on parlait tout à l'heure, est-ce que cette proximité, le fait que vous ayez été enfant tout près du Vésuve, le Vésuve sur lequel votre père vous emmenait, qu'est-ce que ça fait de grandir? Qu'est-ce que ça a fait, vous pensez, à l'écrivain que vous êtes devenu, de cette proximité avec le volcan? Quand vous dites, je reprends cette phrase, je continue à habiter des feux éteints.
Le volcan est le cauchemar principal du système nerveux de tout Napolitain. Ça veut dire que tout Napolitain renfermé dans une chambre sait exactement dans quel côté se trouve le Vésuve. Mon père aussi orientait son lit avec les pieds vers le Vésuve.
Pourquoi ? Pour s'en éloigner
Pour s'éloigner.
Ouais. Et vous pensez que ça a joué sur votre tempérament d'écrivain, justement, cette proximité atmosphérique, presque sensitive avec le feu éteint qui peut se réveiller?
À quoi va influencer mon système nerveux, qui est un système nerveux napolitain.
Très bien. Je continue, Éric De Luca, je parlais de l'alpinisme et on va avoir l'occasion d'y revenir au cours de cette émission. Vous êtes aussi quelqu'un qui a été très marqué par la lutte politique, puisque vous êtes né dans une famille bourgeoise napolitaine ruinée par la guerre. Vous êtes déclaré communiste dès l'âge de 16 ans et après avoir quitté le domicile familial, vous vous êtes engagé dans l'action politique révolutionnaire. Vous avez adhéré en 1969 au mouvement d'extrême gauche Lotta Continua, dont vous êtes devenu l'un des dirigeants responsables de son service d'ordre. C'était quoi exactement? On se dit, tiens, un écrivain et le service d'ordre, on dit, ça va pas forcément ensemble. Mais peut-être que je me trompe.
J'étais écrivain pour moi-même. Je me tenais compagnie avec l'écriture. La participation à une génération est une révolutionnaire, mais m'a donné des responsabilités. Une de ces responsabilités est celle de protéger les manifestations, notre manifestation. Nous étions des révolutionnaires publics, pas clandestins. Nous avions un journal, des lieux de rencontres publiques, beaucoup de lieux de rencontres publiques. Nous étions parsemés partout, dans toute l'Italie. L'Italie a eu une gauche révolutionnaire qui a duré longtemps. Elle a duré une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, une gauche révolutionnaire publique. Après, il y a eu aussi des suites en clandestinité, mais ce n'est pas été mon cas. Je suis resté un révolutionnaire public.
Oui, il y avait un journal, vous en parlez aussi dans le Tour de Loi, Pasolini a été un petit peu mêlé à ça, il prêtait son nom. C'est ça, pour le journal de l'Ota Continua. Faudrait expliquer un peu, c'est intéressant. Comment ça se passait?
Parce que pour publier un journal, il fallait avoir un journaliste responsable, directeur responsable, régulièrement inscrit dans le registre des journalistes. Et donc, beaucoup de journalistes ont fait ce service gratuit. Et pour faire sortir ce journal, même s'ils n'écrivaient rien sur ce journal et n'étaient même pas d'accord. Et Pasolini était un de ces journalistes qui a permis la publication de l'Otta Continua.
Et qu'est-ce qu'il faisait concrètement, Pasolini, donc, pour le journal?
Pour le journal, il n'a fait rien, sauf que donner sa signature et donc sa responsabilité, parce que c'était un journal qui recevait beaucoup d'incriminations pour ce que nous allons écrire. Hors de ça, il a contribué à un tournage, un film qu'il a fait pour Lotta Continua. Il racontait l'année entre 69 et 70.
Donc il a fait un film pour vous, en fait. Il apparaissait dans le film ou il tournait?
Non, il tournait le film. Contribué à la...
Une sorte de documentaire, en fait, c'est ça?
C'est un documentaire sur l'année après les bombes de Piazza Fontana, après le grand massacre dans la banque de décembre 69.
Est-ce que vous diriez qu'il nous manque aujourd'hui Pasolini, quelqu'un qui était aussi en prise avec l'époque, dans un moment quand même assez chaotique pour l'Europe? Est-ce que Pasolini nous manque?
Il manque depuis longtemps. Manque sa lucidité, sa distance de tout pouvoir et consorterie, et manque son côté visionnaire, qui est prophétique.
C'est-à-dire, quand vous parlez du côté visionnaire de Pasolini, vous pensez à quoi?
Je pense à sa force d'imagination à propos de certaines vérités qui étaient cachées dans l'Italie d'ailleurs, et qu'il forçait avec son imagination et sa conviction.
Par exemple?
Celle des massacres qui sont restés encore, sont coupables en Italie, des massacres dans lesquels étaient mêlés des services secrets des tournées.
Et quand vous dites sa vision, qu'est-ce que vous entendez par vision pasolinienne?
Par exemple, le fait qu'il il s'était aperçu qu'il manquait les lucioles.
Ah, les lucioles. Ouais.
Et c'était une image d'une époque qui commençait à s'éteindre.
Est-ce qu'on manque de lucioles aujourd'hui?
Il y a parfois, je reviens, mécaniquement et biologiquement, il y a encore des lucioles. Si, mais sont revenus les lucioles. Mais pas cette courante électrique qui passait entre les lucioles et qui faisait de la lumière. Il y a des lucioles singulières, un peu dispersées.
Des lucioles métaphoriques?
C'est métaphorique aussi. Ouais.
L'Otta Continua a été dissoute à l'été 77, mais ça n'a pas entamé chez vous, Eri De Luca, le besoin de vous mobiliser, le besoin de désobéir aussi. Vous avez été engagé dans la vallée alpine de Suse contre la ligne de train à grande vitesse, hein, Lyon-Turin. Ça vous a valu un procès pour incitation au sabotage, dont vous avez été relaxé en octobre 2015. Je voulais vous demander, avant que nous parlions du tour de loi, où il est beaucoup question d'engagement, est-ce que vous regrettez ce procès? Est-ce que vous regrettez ce combat que vous avez mené qui vous a quand même sacrément épuisé, fatigué?
M'a occupé des ans de mon temps. Je ne regrette pas, non, absolument pas. L'incrimination était pour instigation à commettre des crimes. Et c'était un article qui venait du code pénal fasciste, qui n'avait jamais été appliqué à un écrivain. Donc c'était un expériment qu'il faisait sur mon...
Expérience. Sur
moi. Et moi, j'étais quelqu'un, j'ai tout simplement dit que cette œuvre était nécessaire de continuer à la saboter. Saboter, c'est un verbe que j'apprécie beaucoup. Parce que c'est un verbe, d'abord, c'est un verbe français. Et après, c'est un verbe qui regarde la, une solidarité ouvrière. Mmh. Ça veut dire que dans les premières introductions des machineries utensiles dans la textiture autour de Lyon, beaucoup de main-d'œuvre venaient d'être expulsées. Alors, les ouvriers jetaient des sabots dans les machines pour les endommager un peu et pour permettre le retour des ouvriers expulsés. Ça veut dire que ceux qui faisaient cet acte de sabotage, en renonçant à ses propres sabots, donc allant pieds nus, étaient des personnes qui étaient dans la femme, dans l'usine, n'étaient pas expulsés. Mais ils faisaient ça à risque de leur propre travail pour solidarité et pour aider les autres qui étaient expulsés. Donc, tout d'abord, c'était un acte de fraternité ouvrière.
Ouais, le mot vous plaît. Ouais. Donc vous ne regrettez pas ce combat ?
Moi, j'ai été complètement acquitté.
Oui, totalement.
Parce que la formule a été le fait de l'incrimination n'existe pas.
Ouais. Dans « J'accepte volontiers une condamnation pénale, mais pas une réduction de vocabulaire », qui est un texte publié en 2015 et qui a été repris, vous dites que l'écrivain, s'il a un pouvoir, c'est peut-être celui de parler pour ceux qui ne sont pas entendus. Dans une démocratie, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne seraient pas écoutés.
Oui, il y a un petit morceau d'un livre des Proverbes qui dit « Ouvre ta bouche pour le muet ». Donc, ça peut faire un écrivain. Peut ouvrir sa bouche par des personnes, par une condition de civile, d'une lutte qui est muette. Et muette parce qu'elle n'a pas la voix? Non, parce qu'elle n'est pas écoutée. Et alors, tout ce procès, ces 10 ans, ont eu cet effet secondaire, mais important pour moi. Donner de la voix à des personnes qui étaient malentendues, étaient calomniées. Et donc, cette voix a été plus répandue. Et mieux, et les raisons de cette lutte ont été mieux connues. Donc ça a été un succès.
Quand vous dites j'accepte volontiers une condamnation pénale, mais pas une réduction de vocabulaire, quel était ce point de vocabulaire que
vous... Le verbe saboter.
Ouais, le verbe saboter.
J'ai défendu le verbe saboter.
Ouais.
J'ai fait une centaine de rencontres publiques pendant
pour expliquer ce que c'était le mot.
Ouais. Et j'ai commencé à répéter ce mot. Si ce mot est un crime, je suis un criminel convaincu.
Vous parlez de réunions publiques. Dans le tour de loi, vous écrivez « J'agis en haut parleur de moi-même et de certaines causes publiques, de certaines parties lésées qui ne sont pas écoutées. » Alors c'est votre narrateur qui dit ça. Est-ce que le narrateur et l'auteur, ça, je vous poserai la question tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que l'écrivain est autant un être de parole qu'un être d'écriture ?
Et un être d'écriture pour son travail, pour son œuvre. Mais au-delà, il est un citoyen. Un citoyen qui peut profiter exactement de son rôle d'avoir un peu plus d'écoute pour défendre des causes civiles. Qu'est-ce que peut faire un cordonnier, au-delà de faire très bien les chaussures? Faire en manière que tout le monde puisse aller avec des bonnes chaussures. Ça, c'est son engagement civil. Et mon engagement civil, c'est que tout le monde puisse aller avec ses propres mots à être écouté.
Vous avez déclaré « J'ai honte d'être contemporain de naufrage en mer calme ». Vous avez aussi cité cette belle phrase de Virgile dans l'Énéide « Una salus victis nullam sperare salutem ». La seule chance de salut pour les vaincus, c'est de n'espérer aucun salut. Votre engagement aux côtés des migrants et de ceux qui les aident, est-ce qu'il se fonde aussi sur des raisons culturelles, des raisons littéraires, à cause, je citais Virgile pour ça, de lectures que vous avez pu faire et qui ont peut-être sculpté l'homme que vous êtes devenu?
Je suis quelqu'un qui est né dans la Méditerranée. J'étais salé par la Méditerranée. Ma peau s'est colorée, s'est rendue plus épaisse. Ma liberté consistait dans aller pieds nus et former le cal pour me promener sur les rochers aussi. Enfin, donc, je suis quelqu'un qui a une dette face à cette mer. Et je sens la tristesse de cette mer. Cette mer qui, maintenant, est devenue un laboratoire de transformation de corps humain en plancton. Ça, c'est ce qui se produit maintenant dans la mer Méditerranée. Faute, grâce au pire ce transport maritime de l'histoire de l'humanité. Aucun passager d'un bateau à naviguer si mal et dans des conditions si minables. Même pas les esclaves déportés de l'Afrique qu'ils étaient renfermés dans les cales de ces bateaux, mais ils étaient de la marchandise qui était payée à la consigne. Il fallait la consigner, donc la nourrir, la rendre rentable. Et par contre, ici, non. Ici, il y a de la marchandise qui paie en avance, et donc le commerçant, le trafiquant, n'a pas besoin de consigner cette marchandise. Le corps humain est devenu la marchandise la plus rentable à transporter clandestinement sur la Méditerranée. Donc, nous sommes contemporains de ça. Et quand j'ai reçu cette noble invitation de la part de Médecins Sans Frontières d'aller sur leur bateau pour être avec eux dans ce travail de secours, de sauvetage, j'ai vu monter de cette échelle de cordes, un par un, plus que 800 personnes. Mais il y avait des femmes avec des bébés au cou. Alors, j'ai imaginé le fait qu'il y ait cette femme avec son fils qui monte sur des canots minables qui pourraient se dégonfler et qui affronte ce risque énorme. Et donc, je dis, il y a une force qui permet de surmonter le plus naturel, le plus fort instinct, que c'est l'instinct maternel vers sa propre créature. Donc, quelle est cette force qui est supérieure à l'instinct? C'est pas l'espoir, c'est le désespoir. Donc, tous ces voyageurs et tous ces voyages dépendent de la force motrice du désespoir. Et donc, c'est une force motrice qui ne peut pas être réglée ni
empêchée. Oui. D'ailleurs, vous rappelez aussi que là, en étant dans la mer, quand on parle de la montagne, puisqu'il y a eu aussi des tentatives de blocage hein, de migrants dans la montagne, que même Hannibal et même ses éléphants ont traversé les Alpes. Donc, de toute façon, ces gens passeront et qu'il faut arrêter de s'illusionner et d'essayer de bloquer la montagne. C'est ce que vous disiez aussi.
On peut pas. La montagne, c'est pas un barrage. La montagne, c'est un énorme système de communication entre deux versants, système de communication qui peut pas être détecté. Je vais en montagne, je peux monter sur le sommet du Mont Blanc et descendre de l'autre côté. Donc, ça veut dire que tu peux passer n'importe où à travers les Alpes. Les Alpes ne sont pas un barrage.
Comment vous voyez la situation, justement, avec le gouvernement italien, qui est assez hostile aux clandestins? Est-ce que vous pensez que cette question-là se réglera? Est-ce que l'Europe, dont il est question dans le tour de loi, on va en parler, pourra contribuer, peut-être en appelant à ses valeurs, à essayer de conjurer, justement, ce processus de transformation des êtres humains en plancton dont vous parliez?
C'est comme une espèce de dîme que ces voyages laissent dans leur parcours. L'Europe admet ça et ne fait pas sélection. Ils arrivent, ceux qui ont surmonté cette sélection innaturelle. Mais je ne vais pas parler en ce moment de gouvernement italien. C'est un accrochage entre deux formations politiques qui étaient opposées l'une à l'autre. Dans la campagne électorale, il était l'un contre l'autre. Et après, la Ligue s'est détachée de son alliance de droite. Et
c'est un attelage, en fait, hein, c'est ça, c'est un attelage un peu...
C'est quelque chose qui... Et ils ne sont pas ensemble, ils sont en concurrence perpétuelle sur n'importe quel argument, y compris encore la fausse ligne de grande vitesse Lyon-Turin.
On va parler du tour de loi, je voudrais juste citer justement un passage. Donc il y a ce fils, hein, ce fils imaginaire que le narrateur voit surgir devant lui et qui lui dit « Tu as dit... » qu'il a été un siècle aveugle, on parle du XXe siècle. Tu as dit qu'il a été un siècle aveugle, mais je ne le crois pas du tout. Il a produit dans son deuxième temps une forme d'Europe sans guerre, en ressuscitant un continent en miettes. Mis à part des poussées locales, l'objectif atteint est solide et sera maintenu. Je comprends mal les revendications de différence, la manie d'exalter une identité locale. Je suis un citoyen de la nouvelle Europe et je voudrais un passeport unique, en plus de la monnaie. Ce fils qui surgit... reproche au narrateur de ne pas croire assez à l'Europe. Quelle est, vous, votre position d'auteur?
Ma position est celle de mon fils, de ce fils. Je suis un européiste extrémiste. Je pense que l'Europe doit avancer encore davantage dans sa combinaison de compétences, dans la réunification de compétences et d'identité politique. Donc, en Italie, il y a des en Bourbon, on bourdonne, non, on fait un peu de on se lamente, il y a des lamentations.
Oui. Voilà, comment vous vouliez dire en italien?
Bofonchiano.
Très bien, oui, c'est ça, d'accord. Des grognements, quoi.
Oui,
des ronchonnements, on dirait les Français.
Mais qui ne sont pas utilisables dans un programme politique. Aucune formation politique italienne dira à la prochaine élection, nous sortons de l'Europe.
Vous avez dit, je suis un citoyen, il y a une chose qui me choque, Eri De Luca, je vais vous le dire, parce que vous êtes devant moi. Donc, un écrivain, vous avez parlé du rôle de porte-voix, hein, de parler pour ceux qui sont muets. Pourquoi vous n'avez pas...
Pas de porte-voix.
Non,
parce que la voix, ils l'ont
bien. Ils
l'ont. Amplificateur de la voix.
Un amplificateur de voix, oui.
Un outil.
Oui, mais c'est ce qu'il y a dans les manifs, quand je dis porte-voix, voilà, qui porte la voix plus loin. Bref,
pardon.
Pourquoi vous n'avez pas voté? Est-ce qu'ils sont au pouvoir, là? Pourquoi vous n'avez pas voté? Un écrivain, c'est pas un citoyen aussi? Même si c'est pas parfait, je veux dire, pourquoi?
Il y a un tiers d'Italiens qui n'ont pas voté, qui ne se reconnaissent pas. Et donc, c'est un déficit de confiance.
Mais les autres ont voté. Et les autres ont voté.
Et les autres ont voté, si.
Pour le gouvernement qui... Pour cet accrochage.
Pas pour ce gouvernement. Ils n'ont pas voté pour ce gouvernement. Ils n'étaient pas prévus.
Non.
Ils ont trahi complètement les choses qu'ils ont dit avant. Donc, encore...
Mais vous regrettez de ne pas avoir voté, justement?
Non. Il y a des abstinences qu'il faut garder.
Très bien. On parle du tour de loi avec vous, Eri De Luca. On écoute votre premier choix musical. Vous avez choisi une chanson de Gian Maria Testa, Questa Pianura, qui veut dire...
Le plat pays.
Le plat pays.
Con immense montagne.
France Culture.
La chiamano al nord.
Le temps des écrivains.
Con fiumi d'acciaio fra mille ciminiere.
Christophe Onodibio.
Pali di orizzonti interrotti dai boschi. E la malinconia che la ama da sempre. Con un mare di nebbia che ritorna ogni giorno. Con il vento d'autunno sentitelo abbracciare questa pianura che è la mia, con alte cattedrali che sembrano montagne e campanili neri come alberi di cuccagna, dove diavoli di pietra strappano nubi al cielo con il filo del giorno come unico viaggio, con la pioggia che sola ti dice sera, con il vento di ottobre sentitela afferrare questa pianura che è la mia, con il cielo così basso che un canale si è perso, con il cielo così basso che vivi inginocchiato, con il cielo così grigio che il naviglio si è impiccato, con il cielo così grigio che lo devi perdonare, con il vento d'inverno che si apre su di lei e sotto il ghiaccio di gennaio sentitela tremare questa pianura che è la mia, quando il vento d'estate fa tornare il sorriso e ogni donna ritrova la sua voglia di amare, quando cose perdute si ritrovano ancora, quando suda la terra sotto il caldo del sole, quando il vento accarezza le distese di grano, con il vento del sud sentitela cantare questa pianura che è la mia.
Questa pianura, le plat pays, c'est une chanson de Gian Maria Testa. Nous, on connaît la version de Brel, de Jacques Brel. Pourquoi ce choix, Eri De Luca?
Parce que Gian Maria était un peu plus qu'un compagnon. Il était un des rares frères qu'on peut rencontrer dans la vie. J'en ai eu deux, ils sont morts tous les deux. L'autre, c'était un poète de Sarajevo.
Qui s'appelait?
Izet Sarajlić. Il était plus âgé que moi et Jean-Marie était plus jeune que moi. Mais avec Jean-Marie, on a passé des centaines de soirées sur les scènes et hors des scènes à rigoler, à chanter, à inventer des variantes.
Et des histoires, et des histoires, et des histoires. Ouais. Et vous souriez en parlant. C'est agréable d'en parler comme ça, ça fait du bien, Eri De Luca. Alors ce tour de loi qui vient de paraître chez Gallimard, qui est traduit de l'italien par votre fidèle traductrice Danielle Valin. Dans ce livre, on est un soir d'hiver, la foudre a plongé dans l'obscurité, dans la nuit, la vieille maison que le narrateur a bâtie de ses propres mains. Il nous raconte d'ailleurs comment il l'a bâti. Et puis, comme Geppetto faisait surgir Pinocchio, il fait surgir un fils devant lui. Le fils qu'il n'a pas eu dans la vraie vie, mais un fils à qui il va raconter sa vie, son enfance, le premier baiser, la guerre de Bosnie, l'usine, l'engagement révolutionnaire, l'alpinisme dans lequel il trouve aussi des leçons de vie, peut-être aussi d'écriture. Et bientôt, le fils va se mettre à parler aussi, à le questionner, assez directement, sans le ménager, ce qui provoque une sorte de mise à nu de ce narrateur, une mise à nu pleine de tensions, une sorte de maïeutique aussi entre ce père et ce fils. Je me suis inquiété pour vous, Eri De Luca, quand j'ai lu ce livre. Il a un parfum de dernier livre. D'ailleurs, le fils le dit. « Qu'est-ce que je suis censé faire de ton souvenir ? Tu es en train de rédiger ton testament ?» Qu'est-ce qui justifiait ce livre, Eri De Luca, une telle transmission et ce dispositif aussi ? Un fils qu'on n'a pas eu, qui surgit devant nous et avec qui on va pouvoir discuter, dans le sens d'une discussion presque révolutionnaire, pleine d'étincelles.
Parce que c'est comme tout à coup avoir quelqu'un face auquel il faut justifier la vie, qui est injustifiable. Et par exemple, le fait que rien de ce qui s'est produit dans ma vie est venu d'un projet, d'une intention, d'un programme. J'ai fait 20 ans de vie ouvrière, mais de quel programme pouvait venir, pouvait jamais venir. Je me suis trouvé dans une génération révolutionnaire insurgée, je ne l'ai pas suscité, il était déjà dans les rues. J'ai adhéré parce qu'elle était là, comme Mallory allait sur l'Everest parce que l'Everest était là. C'est une question de naturelle d'un siècle énorme qui m'a produit des convocations que je ne pouvais pas...
Certes, mais pourquoi avoir choisi ce dispositif-là ? Vous n'avez pas d'enfant ?
Même pas, je n'ai même pas choisi.
Ouais. Il s'est passé de ne comme pas ça. En avoir ?
Non, je
ni d'en avoir.
Ni d'en avoir, mais ni dans l'écriture, je n'ai pas choisi ce dispositif. Je n'ai pas pensé à ce dispositif.
Alors, comment ça s'est fait ? Vous étiez là.
Le fait que j'habite seul dans une maison de campagne et je suis bien entraîné à écouter des voix. Des voix qui, on peut bien penser que sont dans ma tête, mais je les reçois de l'extérieur. Je suis quelqu'un qui écoute, mais j'écoute depuis longtemps. Je suis un écouteur qui absorbe les voix des autres et les garde. Donc, mon écriture est une voix de quelqu'un qui est en train d'écrire et de dire quelque chose. Aussi, mes phrases ne sont pas plus longues du souffle qu'il faut pour le dire. Et donc, je me suis mis à l'écoute d'une présence. D'abord, il était là, physiquement, comme dans un nuage. Et après, il a commencé à prendre des caractères physiques évidents, complètement opposés au mien. Il est beaucoup plus costaud et il est aussi les croyants.
Il est croyant, oui.
Il s'imagine d'être quelqu'un qui pouvait être né aussi en Amérique, parce qu'il y a eu un moment où la vie de mon père basculait vers l'Amérique. Mon père est fils d'une Américaine.
Oui, puisque vous appelez Harry d'ailleurs. C'était votre nom.
Si, c'est le nom de mon oncle.
Oui, mais c'était votre nom avant que vous ne choisissiez de transformer ça en Eri.
Je l'ai réduit en Eri.
Voilà. Ouais. Mais si je précise un peu ma question, cette voix que vous avez entendue, c'était la voix d'un fils. Ça aurait pu être un habitant, un cousin, un oncle, un gamin du village. Le fait que vous ayez validé ce non-choix, cette voix qui s'est imposée, c'est quand même la voix d'un fils. Et vous n'avez pas eu de fils, enfin si je ne m'abuse. Est-ce que c'est aussi ce livre une manière d'exprimer une forme de regret ? Pardon, je pose la question, mais le regret d'un type de transmission, vous pouvez transmettre à vos lecteurs, mais cette transmission-là, d'un père à un fils, elle ne pourra pas se faire. Est-ce que c'est une manière de réparer ce type de transmission qui n'a pas pu se faire par la littérature?
Imaginez faire advenir un soir où je me trouve face à cette personne. Et ça s'est produit dans un de mes soirs, c'est produit comme ça. J'ai commencé à écrire et au début c'était une page. C'était une espèce de petit poème. Et après, j'ai continué.
C'est vrai qu'on a l'impression, je vais lire le début, Eri De Luca. Je ne sais de quelle mère tu pouvais venir au monde, fils que je ne peux dire mien. Ce soir tu écoutes tandis que je te parle. D'autres fois je parle à une assiette, dans mon verre, au mur. La voix sort désireuse d'en écouter une. Ce soir tu es présent, c'est à toi que je parle. Je lisais un livre où un vieil homme s'invente un fils. C'est un menuisier et il le fait en bois. Il aimait l'idée qu'on l'appellerait papa. Tu es apparu comme ça, côte d'une autre histoire, fils de quelqu'un qui joue avec les mots, matière qui ne vient pas d'un arbre coupé, le papier sur lequel j'écris, lui, oui. Tu es adulte, je ne sais pas comment tu étais avant, je ne t'ai pas grondé pour un jeu dangereux quand tu étais petit, ni mesuré la température sur ton front. Ce soir, nous nous trouvons à table pour dîner. Quand j'étais jeune, une femme m'a dit qu'elle avait avorté. J'ai gardé le silence. Je ne comptais pas dans sa décision, prise et suivie. Nous étions ensemble et avec une foule de jeunes de notre âge. C'était un amour et un temps qui ne pouvait s'occuper d'une vie privée. Une grossesse voulait dire alors donner un fils en pâture au monde. Tu n'es pas ce fils. Bout de vie en voyage. Retirait la cuillère. Ensuite, elle n'a plus pu en avoir. C'est pour ça que je posais cette question sur... On peut croire après tout... au fait que la littérature soit parfois une réparation.
Pour moi, les histoires sont comme une espèce de... J'entends la vie comme une espèce de moissonnaire qui passe à faire son passage, sa récolte sur le champ. Et après, il reste des petites choses, des restes, des résidus. Et alors, il y a celui qui va glaner et qui a le droit de glaner. Dans l'écriture sainte, il y a ce droit
du glaneur.
Il ne peut pas revenir sur ses pas de moissonneur, parce qu'il faut laisser aux pauvres le deuxième passage. Et donc, s'imagine que l'écriture est ce passage après que la vie a fait sa moisson. Ou bien, j'ai une autre image, dès que je suis là avec les images. Il y a de l'eau salée parmi les rochers. Des vagues qui ont laissé de l'eau coincée parmi les rochers. Et après, l'eau s'évapore. Et qu'est-ce que c'est l'écriture? C'est le sel. C'est le résidu saline qui reste sur le fond.
On a l'impression qu'on parle d'un jeu de loi, donc on a compris, c'est ce jeu évidemment en spirale que vous reparcourez en arrière. Vous nous avez expliqué que vous n'aviez rien choisi de cette vie, pratiquement aucun des événements. Donc ça a été une vie un peu à coup de dés. Et vous reparcourez, grâce à ce fils qui surgit devant vous, toute cette vie. Je voudrais qu'on parle de la composition aussi. Parce qu'on a l'impression aussi que le livre, il est écrit comme ça, presque à coup de dés. Que les souvenirs surgissent chez cet homme de façon imprévue. D'ailleurs, le fils le dit, te lire, c'est comme... D'ailleurs, il dit te lire, il ne dit pas parler avec toi. Comme s'il était déjà lecteur, ce fils. Te lire, c'est feuilleter un almanach. Vous parlez aussi, j'aime beaucoup ce passage de l'écriture, comme une réduction. Tu sais que tu réduis tes personnes à des personnages. Ton père, ta mère, moi-même, ce soir nous passons de vie à papier. Cette réduction ne te gêne pas? Réduction de quoi? De taille, de format? Alors oui, je réduis, mais la vie ne perd pas en grandeur en passant de personne à personnage. La vie se concentre dans des pages, elle se densifie. Elle comprime les années en lignes, les villes en centimètres, et pourtant, on la retrouve. C'est ce qui se passe dans un autoclave où l'air est sous pression. La littérature est un autoclave, de l'air comprimé comme un pneu, un sous-vide. Maintenant, tu démultiplies l'image. C'est un procédé littéraire. Un mot en amène d'autres par association chez un lecteur comme chez un auteur. Une chose à prononcer, Elohim, j'en ai entendu deux, écrit David dans un psaume. Celui qui lit ou qui écoute n'est pas un récipient vide à remplir, mais un multiplicateur de ce qu'il reçoit. Il ajoute ses propres images, souvenirs, objections. Oui, ce soir, je réduis des vies à ce que je peux dire d'elles,
de vous. Ils t'intéressent, ces deux-là ? Tu les trouveras dans des histoires que j'ai écrites. On a l'impression que c'est écrit aussi par association. Mais derrière, il y a ce travail stylistique de réduction. Vous parliez de phrases réduites à un souffle. Vous travaillez énormément cette spontanéité originelle, Eri De Luca.
J'écris avec un stylo sur un cahier. Et j'écris sur la page de droite, en laissant vide la page de gauche, parce que peut-être que j'ai envie d'ajouter quelque chose. Et j'arrive à la fin du cahier, et la page de gauche est restée blanche. Donc pour moi, c'est un flux. Il n'y a ni travail, ni construction.
Et après, quand ce flux est produit sur la page...
Ah, après,
oui.
Je recopie. Je ne relis pas, je recopie. Parce que comme ça, je sais si ça me plaît encore ou non. Ça me tient encore compagnie ou non. Et donc, je recopie une deuxième fois et aussi une troisième fois. Ça veut dire, à la fin de la troisième fois, je sais que je ne peux pas l'écrire mieux et que ça me plaît encore.
Vous recopiez en retravaillant.
Je recopie et il y a des ajouts, des petits changements.
Ce livre, c'est aussi l'occasion d'évoquer vos figures tutélaires. Le narrateur dit... Alors d'ailleurs, levons l'ambiguïté. Je dis quoi ? Je dis le narrateur ? Je dis vous, Eri De Luca ?
Si, si, c'est une coïncidence complète ici.
Voilà, donc je dis le narrateur.
Si, c'est moi. C'est moi et l'autre moitié, non.
Et l'autre moitié, non. Le fils, vous voulez dire. Ouais. J'ai abandonné Joyce, Beckett, Musil, Brecht, Sartre dès les premières pages. Je lis à la manière des navigations. Je passe au large de certains promontoires. Et plus loin, je crois que Borges est seul obligatoire. Pourquoi lui ? Je suis d'accord avec vous. Hein. mais pourquoi lui ? Pourquoi les autres non ?
Mais les autres non, parce que je n'ai pas pu les suivre. Le livre a commencé à me peser sur la main, donc...
Sur
les paupières, et alors se sont tombés. Borges, c'est quelqu'un qui a voulu devenir un écrivain européen, en étant argentin.
Avec des engagements qui n'étaient pas tout à fait les vôtres.
Non, pas d'engagement, il n'avait aucun engagement. Il disait que les opinions politiques d'un écrivain sont les choses les moins intéressantes de sa vie. Il a pris par exemple des symboles littéraires comme le miroir, le labyrinthe, qui sont des outils européens. Il a voulu connaître les langues européennes. Donc, il y a quelqu'un qui vient de loin et qui s'installe et qui, comme en tant que lecteur, m'ouvre le crâne. Je sens quelque chose s'ouvre dans la tête.
Il y a un autre compagnon, vous en avez beaucoup parlé, mais on va en dire quand même un petit mot. C'est la Bible, les Écritures saintes que vous avez découvertes finalement tardivement, mais même quand vous étiez ouvrier,
oui.
Vous lisiez le matin un passage, même comme un exégète. Hein, c'était pas uniquement de la lecture pour en trouver le sens. C'est très présent d'ailleurs dans le Tour de Loi. Qu'est-ce que vous trouvez alors que précisément vous ne croyez pas?
J'étais curieux de savoir que c'était faite comment cette langue qui avait pour la première fois introduit le monothéisme dans la Méditerranée. C'était un acte contre nature, le monothéisme dans la Méditerranée, qui est la mer la plus polythéiste du monde. Imaginez le monothéisme à Rome, non ? Où il y avait la concentration de toutes les divinités du monde d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi les divinités des autres peuples conquéris. Et alors, c'est pire qu'imaginer d'implanter le communisme en Texas.
Faut le faire.
Ouais. Mais là, c'est impossible. Mais le monothéisme était encore un peu plus impossible. Qu'est-ce qu'il avait, cette langue, pour faire cet exercice? Cet exercice d'implantation, mais aussi d'extirpation, parce que toutes les autres divinités ont été extirpées.
C'est ça qui vous intéresse, le mécanisme, comment cette parole-là a
d'abord,
produit...
C'était ça. Ouais. D'abord, c'était ça, la curiosité vers la grammaire, vers le format. Et après, j'ai reconnu une intensité dans cette vocabulaire, dans cette langue, dans cette expression, que j'ai eu le désir de retransmettre. Avec des traductions.
Avec des traductions, voilà. Est-ce que c'est la recherche d'une vérité? Le mot vérité appartient très très souvent, parce que le fils demande une vérité sans arrêt. Et en fait, il vous reproche presque d'écrire des histoires qu'il définit comme des sornettes. Tu ne t'en tireras pas avec des histoires. Il y a un trou en toi, dit-il. Et vous lui répondez, tu es le fils d'un Luftmensch napolitain, c'est-à-dire le fils d'une personne d'air déracinée, inconsistante. Quelqu'un qui écrit des histoires, au fond, quand vous en parlez, vous semblez porter un regard assez peu enthousiaste. Une activité effilochée, vous dites.
Si, parce que les mots sont comme ça, sont des objets qui marchent avec le souffle, avec la respiration. Je suis un spécialiste de ce souffle de respiration, je suis un Luftmensch. C'est un mot qui n'existe pas en allemand. Tout le temps, un mot Luft est air et Mensch est être humain. Ouais. Mais il n'existe pas Luftmensch, il existe seulement en yiddish ce mot. Et donc, je l'ai trouvé et je suis... Voilà, c'est ce que je suis.
Sauf que vous parlez
de... Un Luftmensch avec une vie concrète.
Oui, c'est ça, parce que inconsistante et effilochée, il vous reproche, je le cite, ce fils, « On voit que tu as un trou en toi et que tu le recouvres de sornettes. Tu ne t'en tireras pas avec des histoires, tu sais. Comme ton cousin avec le vin, il n'y a pas de réponse dans son verre et dans ton trou, il y a l'étourdissement. » Les histoires que vous écoutez, Eri De Luca, puisque vous dites souvent « j'écoute les histoires et je les écris », c'est étonnant de les voir comme, par l'intermédiaire de ce fils, hein, comme des étourdissements. Alors qu'est-ce que vous lui répondriez à ce fils? Ce sont des étourdissements? Ce sont des sornettes, ces histoires? On n'a jamais eu besoin, autant besoin d'histoire.
C'est ma manière de me tenir compagnie, de m'égarer dans moi-même, dans la foule des personnes qui habitent de moi. Parce que à mon âge, il n'y a pas seulement la foule que j'ai été, mais aussi la foule des personnes qui sont absentes et qui n'habitent que de moi.
Vous êtes, on en a parlé un petit peu, hein, vous rentrez des Andes où vous avez donc gravi 6 sommets, hein, c'est ça, 6 montagnes, 6 volcans.
6 volcans.
Vous avez été en 2002 le premier quinquagénaire à gravir une difficulté classée 8B, c'était la Grotta dell'Arenaota di Gaeta. J'ai lu quelque chose sur vous, je prononce très très mal, hein, pardonnez-moi Eri De Luca, vous allez le dire mieux que moi.
Quoi?
Grotta.
Non, Grotta dell'Arenaota.
Voilà, très bien. Bien. Bon. Je ne plante jamais de clous, je n'ai jamais donné un coup de marteau sur une paroi rocheuse, je ne veux pas laisser de traces. Vous aviez déclaré ça dans une interview. Pourquoi cette volonté-là dans l'alpinisme, mais pas dans l'écriture? Parce que les livres, que vous le vouliez ou non, sont des traces.
Ce sont des traces? Je ne sais pas si ce sont des traces. Ce sont des histoires. Des histoires que quelqu'un peut lire et trouver quelque chose de lui là-dedans, mais des traces. Non, c'est pas comme une montagne où il faut mettre les appuis exactement dans les justes places.
Vous ne pensez pas qu'une histoire bien faite, bien écrite, met des clous aussi dans les... Vous disiez tout à l'heure qu'un livre, vous avez ouvert le crâne, qu'une histoire ne peut pas aussi mettre des clous dans notre paroi intérieure, notre imaginaire?
Non, des pages peuvent me donner du bonheur. Du bonheur imprévu. Et ça, c'est le miracle de la lecture. Je suis beaucoup plus lecteur qu'écrivain par cette question. Parce que avec des lectures, j'ai été heureux. Et avec mon écriture, je ne suis pas heureux. Au maximum, je suis satisfait de ce que j'écris. Donc c'est une différence énorme, comme émotion, d'enthousiasme.
Oui, mais votre lecteur, ça c'est vous, mais votre lecteur, est-ce que vous y pensez, justement, quand vous lui offrez une histoire, quand vous lui offrez le tour de loi? Est-ce que vous dites, vous qui avez grandi, enfin qui avez été très marqué par Hommage à la Catalogne, hein, de George Orwell, qui continuait, et on le voit bien avec ce livre, de considérer la littérature comme une arme presque de vigilance qui nous protège contre contre les autorités, contre le panurgisme. Hein, Orwell aussi, c'était ça. Votre lecteur, est-ce que vous voulez lui offrir justement ces clous dans la paroi de son âme, dans son imaginaire, même dans sa condition d'être humain, quoi, d'être humain en société, de citoyen?
Non, je pense pas que j'ai pas cette image de si marquante comme un clou battu. Non, ce sont des coïncidences. Offrir des coïncidences.
Je vais reprendre la question quand même que je vous posais à l'orée de cette émission, Ré De Luca, quand il dit « Est-ce que tu écris ton testament ou non ?» Ce fils hein, qui apparaît devant le narrateur, sans trop dévoiler la fin, je vais quand même dire le dernier mot, sauf si vous êtes contre Ré De Luca, mais vous
pas
êtes
contre,
un,
pas contre.
Voilà,
c'est,
vous êtes un partisan c'est de la liberté.
Pas,
donc
c'est
donc
pas
je
un polar.
Voilà. « J'y suis presque, il n'y a plus que les yeux, ferme-les s'il te plaît. » Je ne dis pas ce qui se passe entre le fils et le père, mais c'est vrai qu'on a la sensation aussi que c'est presque un dernier livre. Est-ce que vous l'avez écrit en pensant que c'était un dernier livre? Est-ce que vous écrivez tous vos livres aussi comme si c'était des derniers livres?
Je les écris comme s'ils fossent, comme s'ils sont l'avant-dernier.
Ça veut dire quoi?
Par prudence. Le dernier sera un accompli. Ils sont tous avant-derniers.
Nous ne sommes pas indispensables, individus ou espèces tout entières, à cette merveilleuse machine du monde. C'est ce que vous écriviez dans Noyau d'olive. Est-ce que cette pensée vous rassure quand vous pensez à la fin de la vie?
Je pense que j'ai vécu. J'ai vécu assez. Et donc que j'ai aucune récrimination à faire dans le moment où il y aura cette interruption. Donc je suis déjà gré. Beaucoup gré à la vie, à la chance qu'il m'a donné d'avoir d'abord une bonne santé, de m'avoir offert les livres, les montagnes.
Pas de Dieu après la mort, toujours pas?
Je pense qu'il n'y a pas de prolongation, qu'il faut se dire tout maintenant.
Un dernier extrait, Ré De Luca. C'est à la fin du livre et c'est peut-être cette... Vraiment, c'est peut-être la grande leçon de littérature, d'écriture que vous donnez.
En littérature, l'indescriptible n'existe pas. Ce n'est pas un acte de foi envers les mots. C'est l'étincelle de bonheur qui libère de l'enthousiasme quand on trouve les bons. Ce n'est que dans l'enthousiasme que l'être humain voit exactement le monde. Grâce à Marina Tsvetaeva, je peux exprimer ma gratitude envers les mots. Ils me donnent de l'enthousiasme. Saloupe pour mieux voir. Ils sont cette paire de lunettes placées sur le nez de Miguelim, l'enfant du parfait récit de Guimara et Strosa. Il découvre la précision du monde, ignorée par sa myopie qui avait duré jusqu'à l'instant d'avant. Les mots, mon fils, n'inventent pas la réalité, qui existe de toute façon. Ils donnent à la réalité la lucidité soudaine qui lui retire son opacité naturelle et ainsi la révèle. Les mots sont l'instrument des révélations.
Merci Ré De Luca pour cette lecture. Mais alors, quelle révélation, vous qui n'êtes pas croyant?
Les révélations des vérités. De toutes ces petites vérités qui explosent comme des étincelles et après sont devenues évidentes. Avant, étaient complètement impensables et tout de suite sont évidents.
Quel type de vérité la littérature vous a révélé à vous, Ré De Luca, comme lecteur?
Par exemple, le mot, l'adjectif « invincible » appliqué à Quichotte dans un poème de Nazim Hikmet. « Invincible Quichotte », qui n'a jamais gagné même une seule bataille. Comment est possible? Et mais c'est exactement comme ça. Les invincibles ne sont pas ceux qui gagnent toujours, mais sont ceux qui, continuellement battus, ne cessent de se remettre en pied pour se battre à nouveau. Quichotte est invincible parce qu'il ne peut pas être vaincu une fois pour toutes. Et donc c'est cette révélation de l'invincibilité de Quichotte, de l'invincibilité de ceux qui sont continuellement vaincus et qui continuent à se battre, qui a été une révélation. C'était se perdre des lunettes sur le nez de Miquelim.
Et après, vous me dites, Ré De Luca, que vos histoires, que vos textes, vous ne pensez pas qu'ils puissent planter des clous, des non, beaux clous.
Cette déclaration, c'est la déclaration d'un lecteur, pas d'un écrivain. Je ne pense pas que mes mots soient à l'auteur de cette déclaration de lecteur.
Vous n'oseriez pas?
Je ne pense pas que ce soit à l'auteur de cette déclaration.
Est-ce que vous êtes inquiet, Ré De Luca? Vous disiez, c'est mon avant-dernier livre, hein. Tous les livres sont mes avant-derniers livres. Mm-hmm. J'aime bien cette idée-là. Est-ce que vous êtes parfois inquiet de la... Et c'est un fils, hein, c'est un jeune fils hein, qui apparaît, il a quoi, une quarantaine d'années à peu près, on peut dire qu'il est encore jeune. De l'avenir de la littérature, de ces révélations par les mots qui peut-être vont être de plus en plus obscurcies par les écrans que les jeunes gens, les moyens jeunes gens ont entre les mains. Est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que ça vous inquiète? Ou est-ce que vous pensez que la littérature est plus forte que tout?
Je pense que les récits sont plus forts que tout. Avant que ce soit bien avant qu'il était imprimé, écrit, fixé dans un format, ils existaient dans les voix, qui se transmettaient les informations, les histoires, les
Homer,
compétences,
les aides.
Encore de l'un à l'autre, à travers des milliers de générations. Donc cet arbre de transmission de la connaissance ne cessera pas.
Même si ça ne se fait pas à travers les livres, ce n'est pas grave?
Non, se ferait encore à travers les livres. Les livres sont irremplaçables.
Ah oui. Qu'est-ce qui vous fait croire en leur irremplaçabilité?
Parce que je prends ce livre et je le jette par terre. Et il ne se casse pas.
C'est un objet parfait. C'est ce que disait Umberto Eco, votre compatriote. Aussi, les livres sont des objets parfaits.
Si, on ne peut pas être substitué, remplacé par un support électronique. Le support électronique a besoin d'électricité et se casse.
Une dernière question, Éric de Luca, avant de nous quitter. Et comme je vous ai devant vous et que je regarde et je regarde vos yeux bleus, je crois que votre œil droit a été blessé quand vous étiez enfant et vous dites que c'est votre œil calme et que il peut faire le point uniquement sur l'horizon et que le gauche, lui, qui a pas été touché, il est rapide, il contrôle tout. Vous dites que c'est votre œil napolitain.
Si, mon œil napolitain.
Est-ce que vous diriez que cette double vision est peut-être la clé aussi de vos talents, là c'est moi qui le dis, d'écrivain? En tout cas, est-ce que ça vous a aidé dans l'écriture, cette double vision? Est-ce que vous recommanderiez une blessure, finalement, à l'œil pour les apprentis écrivains?
Peut-être qu'il faut une réduction de la mise à feu.
De la mise à feu, exactement. Merci beaucoup, Éric de Luca. Ça s'appelle Le Tour de l'Oie. Ça vient d'être publié chez Gallimard. C'est traduit de l'italien par Daniel Valin. On se quitte avec un dernier choix musical. Vous avez choisi Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat. Pourquoi ce choix musical?
Parce que c'est une parfaite histoire qui me rassemble beaucoup.
Oui. Et vous pouvez nous en dire plus? Vous avez un Famous Blue Raincoat aussi?
Quelqu'un ami qui avait un bon... Raincoat, parce que je me suis trouvé dans des conditions d'infériorité face à un amour, face à une femme. Et ce qui s'appelle les trahisons, je ne l'ai pas pu lui reprocher.
Le Temps des Écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, à la technique Claire Levasseur. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant jusqu'à l'infini en fait, jusqu'à la révélation dont nous parlions avec Éric de Luca sur franceculture.fr, cette émission spéciale avec donc Éric de Luca. On écoute Famous Blue Raincoat, Leonard Cohen. Merci à vous.
Grazie.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene, and you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. Possibly say, I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy sleeping, and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, Al Cohen.